Bonjour à tous, merci d'être ici. On va doucement démarrer et vous avez remarqué que cette rencontre est intitulée Génération écran, qu'on va donc beaucoup parler des écrans et notamment de ces petits objets, nos fameux téléphones, qu'on utilise très souvent, de plus en plus souvent, paraît-il, et que je vous invite peut-être à ranger dans votre poche pendant une petite heure. Moi, je vais juste le garder. Promis, je ne l'utilise que pour regarder l'heure et pour bien gérer cette rencontre. Je vous donnerai la parole tout à la fin pour vous permettre aussi de réagir et de poser vos questions. À mes côtés, deux écrivains, parce que vous êtes tous les deux auteurs, mais aussi philosophes pour vous, Florian Forestier. Vous avez commis quelques ouvrages en tant qu'écrivain, mais l'ouvrage qui va le plus nous intéresser, c'est le tout dernier qui a été écrit à quatre, qui est un essai qui questionne les addictions et la nouvelle société. On y reviendra. En tout cas, les deux livres qui vont vraiment nous intéresser, il y a d'un côté un récit, le récit de Lara. Ça, c'est votre livre, Laura Poggioli. Lara, qui à l'approche de la quarantaine, va décider de se former à la psychologie. Elle est mère de trois enfants, dont deux jumeaux, et elle va donc commencer un stage dans une unité d'addictologie. On va la suivre dans ce stage, un stage d'observation lors duquel elle va rencontrer des jeunes, pour la plupart mineurs, et qui ont pour beaucoup construit leur vie autour des écrans, sont devenus ce qu'on appelle addicts aux écrans et ont développé d'autres addictions, d'autres pathologies, parfois dramatiques, entre phobie sociale, repli sur soi, troubles alimentaires. C'est toutes ces choses-là qu'elle va observer, découvrir avec eux, et de ces addictions, elle va se questionner aussi, elle va interroger sa propre vie, sa propre histoire, elle va revenir sur sa propre enfance et essayer de peut-être comparer son époque à elle, puisqu'elle a 40 ans, l'époque où elle était elle aussi jeune, qu'elle avait l'âge de ses enfants, et elle va revenir sur ses propres obsessions, sur ses propres addictions et sur son histoire qui n'est pas non plus très simple. Et on va naviguer dans votre livre entre son histoire à elle et l'histoire des autres. C'est aussi une histoire d'humanité, ça questionne beaucoup l'enfance, les risques aussi. C'est un roman, je précise bien, donc pas de dossier pratique, pas de conseil pratique, mais ça n'est que du questionnement et du regard sur la société. Époque, c'est votre deuxième roman. Trois sœurs, votre premier roman, avait paru en 2022 avec une belle couverture médiatique et un prix, le prix envoyé par La Poste. Votre essai à vous, Florent Forestier, pour plus rentrer sur l'essai, il questionne le monde numérique dans lequel on est depuis quelques années, et puis surtout l'emprise qu'il a sur nous, sur notre temps, sur nos libertés et sur notre attention. Il sera beaucoup question d'attention avec vous. Vous êtes, je le disais, romancier, vous êtes docteur en philosophie, et vous êtes, ai-je lu sur la quatrième couverture de cet essai, vous êtes spécialiste de régulation numérique. Ça, faudra que vous me l'expliquiez. Nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, sur ces deux ouvrages, tout différents qu'ils sont, ce qu'ils tentent de faire, c'est tous les deux questionner notre époque à travers nos addictions, à travers notre rapport aux écrans et les conséquences, les risques aussi qu'ils font. Et si votre roman raconte plutôt des trajectoires de vie, Laura Poggioli, vous, Florian Forestier, vous tentez tous les quatre avec cet essai de nous donner pour le coup quelques conseils pour essayer de peut-être sortir de ces addictions. Je voudrais peut-être qu'on démarre avec vous, Laura Poggioli, sur ce qui vous a mené à aborder cette question-là. Alors, votre narratrice, je ne peux pas m'empêcher, mais elle s'appelle Lara, vous appelez Laura, elle a presque votre âge, presque 40 ans elle aussi. Est-ce que quelque part, c'est parce que vous-même, vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être aussi un tout petit peu addict aux écrans, que vous vous êtes interrogé, que vous avez eu envie d'interroger ça à travers un roman?
Oui, alors merci déjà pour cette présentation et merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. Alors la première, peut-être la toute petite graine qui s'est plantée dans mon esprit quand j'y repense par rapport à ce roman. C'était pas forcément par rapport à moi, c'était plus des interrogations de mère et que j'ai ressenti en regardant une série que vous connaissez peut-être, la série américaine Euphoria, qui met en scène la vie d'adolescents aux États-Unis, donc des choses très classiques en fait de relations d'adolescents entre eux. Mais en même temps, dès les deux premiers épisodes, on voit l'impact des écrans sur leur vie, des images qui sont filmées, diffusées, des photos, des vidéos sans le consentement, des rencontres aussi assez dangereuses qui peuvent se faire en ligne. Et bon, en fait, ça m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas, j'ai arrêté assez rapidement, j'ai repris plus tard. Et ça m'a renvoyé à des souvenirs effectivement personnels de mon adolescence, en fait. Et je me disais, mais s'il y avait eu les écrans à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait eu comme impact? Comment j'aurais pu gérer ça? Et puis j'ai pensé à ma fille tout de suite, donc, qui était vraiment petite à ce moment-là, et à sa future adolescence avec les écrans. Et là, vraiment, en fait, j'avais déjà lu beaucoup d'études, beaucoup de choses évidemment sur ce sujet, mais là, c'était une fiction, et donc ça me touchait davantage, en fait. Et là, j'ai vraiment commencé à chercher le plus de choses possibles sur ce sujet-là. Et puis après, par rapport à moi, donc ça ramène à votre question, quand mon premier roman est sorti à l'été 2022, j'ai commencé à utiliser les réseaux, je ne le faisais pas, en fait, jusqu'à ce moment-là, enfin, juste pour consulter des choses, mais pas pour communiquer. Et donc j'ai créé un compte, Laura Poggioli, et j'ai commencé à partager des choses, et j'ai ressenti que à la fois c'était positif, la visibilité, les échanges, etc., mais ça me déstabilisait en fait beaucoup, ça amenait à beaucoup me comparer, me dévaloriser parfois, et j'ai réalisé qu'en fait il n'y avait pas que les interrogations que je pouvais avoir par rapport à mes enfants, mais que moi aussi en fait je me laissais complètement emporter par ça, alors que j'étais déjà une grande fille. Et là j'ai vraiment ressenti, et j'avais eu la même chose pour mon premier roman, j'avais ressenti une espèce de nécessité d'un sujet en fait que j'avais envie de traiter, d'aborder, et j'ai cherché s'il n'y avait pas un endroit au sein duquel je pourrais aller un peu passer du temps, et j'ai identifié une unité à l'hôpital Robert Debré, l'unité de la dictologie de l'enfant et de l'adolescent, alors qui traite de plein de problématiques d'addiction, mais depuis quelques années de plus en plus il y a l'addiction aux écrans. Et donc je les ai contactés, je me suis présentée comme autrice, et ils ont accepté gentiment de m'accueillir, et j'ai passé du temps là-bas un mois et demi, début 2023. Je savais pas très bien ce que j'allais en faire, quel roman, quel livre ça deviendrait. Et ça m'a rapidement beaucoup touchée, effectivement, moi, Laura. Et dans votre question, Sarah, il y avait aussi Lara, Laura. Alors c'est vrai que dans mon premier roman, déjà, j'avais une narration à la première personne, mais là, c'était avec une Laura, parce que j'étais vraiment dans le pacte autobiographique. En fait, je racontais des petites choses de mon histoire avec la Russie pour faire rentrer mes lecteurs dans l'histoire, le fait divers que je racontais. Et je voulais être vraiment au plus près de la réalité. Pour moi, c'était en tout cas ma réalité, même si je sais bien que la mémoire est une fiction en elle-même, c'était vraiment ça. Alors que là, dans Époque, j'ai vraiment romancé, déplacé quand même beaucoup de choses, déjà par rapport à ces jeunes que j'ai vus dans cet hôpital, parce qu'il n'était pas question de raconter leur vraie existence. Donc là, il y a eu vraiment ce mouvement-là au départ. Et puis, j'ai donné évidemment plein de choses de moi à mon héroïne, Lara, plein d'éléments de mes souvenirs, de mon vécu, etc. Mais en romançant aussi, c'est pour ça que j'ai pas utilisé Lara, parce que j'étais pas dans la même, c'était pas tout à fait la même démarche en fait que pour le premier. Voilà.
On reviendra sur l'expérience que vous avez vécue, parce qu'il y a quand même une enquête quelque part de terrain qui mène après un roman, et je suis très curieuse aussi de voir cette expérience physique, corporelle aussi. Et puisqu'on parle d'addiction, puisqu'on parle de rapport au réseau, on parle forcément de notre rapport au monde, notre rapport social aussi, parce que c'est de ça dont on parle réellement. Florent Forestier, presque la même question du rapport presque personnel au sujet qui vous anime aussi bien en tant qu'écrivain et en tant que philosophe, puisqu'on parle de rapport à l'autre, de corps social, de corps collectif et d'addiction. Je crois aussi que vous, c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur pour des raisons aussi personnelles. Vous en avez d'ailleurs parlé dans un de vos livres, de cet enfermement dans lequel on peut être aussi. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse aussi quand on parle, entre autres, d'addiction et de phobie sociale.
Alors moi aussi, je peux faire un petit historique de ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage-là. Alors en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, le fait que la question de l'attention et de ses troubles, c'est quelque chose qui, moi, me touche depuis extrêmement longtemps. Moi, j'ai un trouble d'attention, et ça, je le sais depuis l'âge de 10 ans. Par ailleurs, je suis dans le spectre de l'autisme, ça, je le sais depuis l'âge de 25 ans. Donc le rapport, en général, de mon corps au monde et la manière dont j'utilise le numérique, c'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, dans l'ordre de mes définitions, c'est vrai que moi, je me pense avant tout romancier, mais il se trouve que je suis aussi philosophe. Et comme philosophe, j'ai été longtemps lecteur et très influencé par des gens comme Bernard Stiegler, qui était très connu ici, donc qui était des penseurs de la technique et de la manière dont la technique configure vraiment le monde, mais avec une petite réticence toujours, qui était liée au fait que, à côté du fait d'être philosophe, j'avais aussi un métier concret, et je me suis dit à un moment donné, plutôt que de déplorer, je vais essayer de rentrer un peu dans la construction de la loi. Je vais essayer de voir très concrètement maintenant si on peut faire quelque chose contre tout ce qu'on déplore. Donc vous parliez de régulation numérique. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le cadre d'un think tank avec des collègues, des juristes, des économistes, des psychologues, mais aussi des hauts fonctionnaires pour essayer d'appréhender un peu mieux tous ces phénomènes-là et de les comprendre. Et c'est un peu ça qui mène à cet ouvrage-là, qui est l'émanation directe d'un travail collectif qu'on avait fait, qui était passé par un colloque à l'Assemblée nationale, qui était passé par un travail avec l'UNESCO. Ce qui explique aussi un peu le ton de ce livre, parce que ce livre, il a un peu cette dimension de rapport ministériel, c'est-à-dire il se veut raisonnablement optimiste et pas trop apocalyptique. Je vous avoue franchement que quand je me relis, moi-même, si maintenant je me dégageais de cette idée-là, si je me disais ce livre n'est pas seulement écrit pour les décideurs, mais je serais sans doute moins sage et plus triste que ce qui sort dans ce livre-là. Mais en tout cas, l'écriture générale de ce livre-là, elle est vraiment liée à l'idée de faire des propositions, de se demander, d'accord, on est dans une situation difficile, maintenant essayons de la décrire, essayons de comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle des réseaux sociaux, de quoi on parle quand on parle d'économie d'attention, qu'est-ce que c'est que ce phénomène exactement, comment ça marche, comment la technique exploite des mécanismes attentionnels, et ensuite, quels sont les impacts. Alors, on parle d'addiction, on y reviendra, mais justement, de notre point de vue, l'addiction, c'est un bout extrême du problème, mais le problème est beaucoup plus vaste que l'addiction. Il y a tout un champ de perturbations très très fort de notre expérience du monde et de notre vie qui va au-delà de l'addiction, qui est peut-être même plus insidieuse et perverse. Donc on a voulu faire ça, puis ensuite vraiment faire des propositions. Comment on transforme les choses? Quelles lois peuvent passer? Qu'est-ce qu'on interdit? Avec l'idée aussi de ne pas être seulement négatif, en voyant aussi ce qui, dans le fonctionnement des réseaux, peut être utile, peut être émancipateur, et essayer de voir à quelles conditions, en les transformant, on pourrait changer un peu la balance des choses, que les dimensions utiles, émancipatrices, soient un peu plus mises en avant, et que les dimensions toxiques soient un peu moins fermes. Donc c'était ça notre projet.
Avec effectivement une tentative de définition de ce que c'est que l'addiction, une question aussi de ce que c'est que le trouble de l'attention, entre autres choses. Vous comparez d'ailleurs l'addiction qu'on peut avoir au casino avec l'addiction aux écrans. Et est-ce qu'on peut réellement appeler une addiction quand on est si longtemps sur les écrans? C'est toutes ces questions-là. Laura Poggioli, finalement, cette addiction aux écrans, c'est moins celle-là qui vous intéresse. C'est plutôt les conséquences qu'elle amène, parce que ces jeunes que Lara, et que vous avez observé aussi avec votre expérience pendant un mois et demi dans ce service d'addictologie, c'est plus les conséquences que ça mène, et c'est aussi ce qui les amène à rester longtemps sur les écrans. C'est moins l'écran qui est important que l'avant et l'après. C'est le rapport avec les parents, c'est la famille finalement, c'est déjà les difficultés qu'il peut y avoir au sein de la famille, l'absence ou les absences, et puis après c'est les conséquences que ça amène, je le disais, les troubles alimentaires chez certains, les addictions au sexe, entre autres choses. Et c'est tout ça finalement que vous observez sans juger, là aussi, mais avec une espèce presque d'empathie, si je peux le dire, de la part de Lara, qui se pose une question que j'avais envie de poser à l'écrivaine que vous êtes, c'est la distance qu'elle doit avoir ou pas avec justement ses patients. Et je me posais la question de quelle distance on mettait quand on écrivait justement tout ça, sachant que cette fameuse Lara raconte aussi son passé et s'implique, elle, totalement, et finit par ne plus mettre de distance avec cette histoire-là.
Oui, alors effectivement, le personnage de Lara, elle se pose cette question de la distance parce qu'elle envisage de devenir psychologue. C'est sûr que moi, en tant qu'écrivaine, c'est pas la même problématique. Et j'ai vraiment ressenti ça là-bas, et c'est intéressant comme question, parce qu'au départ, je pensais qu'il y aurait une distance, justement, entre moi et ces jeunes, parce que c'est une autre génération, parce que souvent, il y avait des troubles, effectivement, assez lourds, qui étaient associés à leur rapport aux écrans, etc. Mais en fait, bah, leurs émotions, leurs souffrances, leurs traumatismes, leurs expériences, ça me rappelait beaucoup de choses vraiment personnelles que j'avais pu vivre au cours de ma propre adolescence ou plus récemment. Donc la distance, elle était vraiment très mince. Et en fait, après, dans l'écriture, je crois qu'au départ, j'avais pas forcément l'intention de mettre autant de moi dans le personnage de Lara et de lui donner notamment, parce que c'est un peu le deuxième fil du livre, elle se souvient d'une relation d'emprise avec un médecin et de l'importance des outils numériques dans cette relation et du cyberharcèlement qui a suivi. Et donc ça, au départ, c'était pas forcément... j'ai mis du temps, d'ailleurs, c'était pas dans le premier jet. Mais parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment avec ce livre, et ça avait été pareil avec mon premier roman, Trois Sœurs, qu'à partir du moment où je questionnais le réel, où je l'engageais, en fait, surtout à partir d'une enquête, il allait falloir que je m'engage moi aussi, en fait, que je me sentais presque obligée, en fait, dans l'écriture, et vraiment dans tout le processus d'écriture pour mes deux romans, ça a été vraiment étape par étape. Il n'y a pas du tout, au départ, de projet autobiographique de ma part, c'est pas du tout cette démarche-là, mais il y a un moment où, en fait, en creusant un sujet de société qui, moi, parce qu'il me touche, justement, cette distance, je la...
Oui, parce que c'est un roman de société, je peux le dire comme ça, si ça vous dérange pas. Et en plus, ça s'appelle Époque. Et forcément, il y a un choc générationnel. Et elle se le dit, elle aussi. Alors, choc générationnel, si ce n'est que la première chose qu'elle fait quand elle quitte le service d'addictologie, c'est de sortir son téléphone et d'aller regarder le profil de la professeure avec qui elle va travailler pendant un mois et demi. Elle culpabilise de le faire, parce que c'est ça aussi, on passe par l'étape, finalement, je peux pas m'empêcher de le faire, je vais regarder son profil... Et puis après, j'ai honte de le faire. C'est marrant, hein, tous ces fonctionnements-là. Et après, vous lui faites dire, je me sens comme une vieille dame qui refuserait les avancées technologiques et pourtant mes mains ne sont jamais loin de mon portable. Aurais-je été une personne différente si j'avais grandi avec cet objet presque greffé à mon poignet ? La question que vous posez, c'est finalement l'identité qu'on a. Est-ce que finalement... Celle que je suis aujourd'hui, la Lara que je suis aujourd'hui à presque 40 ans, mère de famille, avec ce profil-là, qui a grandi, et vous racontez, il y a une page très belle où elle raconte son enfance, plutôt dans la nature, sans finalement écran, sans téléphone, et elle se dit, est-ce que je serais la même si j'avais eu un téléphone ? Et ça, c'est, je trouve, une grande question de société.
Oui, c'est une grande question et qui m'a habitée pendant toute l'écriture, déjà dès le départ, quand je racontais tout à l'heure le souvenir que j'avais regardé cette série Euphoria, c'est cette question-là en fait que j'ai au départ, c'est mais moi j'ai vécu des trucs aussi, voilà, il y a toujours des moments pas faciles dans l'adolescence, s'il y avait eu les écrans, en plus pour filmer, pour garder des traces, comment j'aurais grandi, et c'est vraiment, et je me posais beaucoup la question quand j'étais... effectivement dans cette unité, ce que moi, ce que ça me renvoyait à tellement de souvenirs, ce que ça aurait bouleversé si j'avais eu l'écran, mais après je voulais pas, j'ai essayé avec le personnage de Lara de pas non plus créer une opposition. C'est pour ça que vous le disiez, elle aussi, on est toujours avec nos téléphones, de toute façon c'est allé tellement vite, mais l'idée c'était pas de pointer du doigt les plus jeunes, c'était vraiment de montrer qu'on était tous emportés en fait dans le même mouvement, la même dynamique, et d'interroger ce que ça changeait en fait, cette ultra connexion numérique, de nos relations au monde, aux autres, à nous-mêmes, au temps aussi, et tous en fait.
Avec finalement la question de qu'est-ce que ça remplace ou qu'est-ce que ça remplit, la question de l'addiction et de notre rapport justement à toute addiction qui nous font perdre peut-être pied par rapport au monde ou perdre l'attention aux autres et au monde. Vous posez finalement la question parce qu'elle dit à un moment donné le besoin de me remplir pour me sentir vivante. Est-ce que finalement aujourd'hui, les écrans, notre rapport, le temps qu'on peut passer ou que certains ou certaines peuvent passer sur les écrans remplit quelque chose et nous sentent, je regarde vous Florian Ferrestier, nous sentir plus vivants. Est-ce que ça c'est quelque chose de notre société aussi ?
Alors je voulais d'abord dire que j'étais totalement d'accord sur la question de la construction. Moi quand je regarde moi-même la manière dont je suis construit et défini, je vois bien qu'une grande partie de moi qui résiste quand même à toute la puissance de mobilisation des écrans, vient de mon enfance et de mon adolescence. Il y avait trois choses. Il y avait mais la lecture quand même approfondie. Il y avait le rapport à la nature, alors d'autant que je suis né en Suisse, donc il y avait un rapport à l'immersion dans le paysage, avec l'arc alpin au loin, avec quelque chose de sensoriel très fort, et il y avait l'attente. L'attente, que ce soit de la soirée, soit que ce soit du film, ou même l'attente de la connaissance, parce qu'on avait envie de savoir quelque chose, mais ce n'était pas immédiatement disponible, on le découvrait un jour, on avait envie de lire un livre, il n'était pas forcément là. Et cette expérience de l'attente, ça rendait le monde beaucoup moins immédiatement disponible, beaucoup plus lointain, et en même temps, elle nous rendait aussi beaucoup plus disponible à, je ne vais pas forcément dire l'effort, mais à la capacité d'épouser, de s'immerger dans tout ce que la lecture nous offrait. Et maintenant, je réponds directement à votre question. Une des choses que les réseaux sociaux et les écrans ont changé, c'est cette capacité à répondre immédiatement, à rendre disponible immédiatement. Alors, il y a dedans un caractère un petit peu addictogène, ça c'est sûr, parce que finalement, ça habitue nos cerveaux, ça habitue notre corps à des processus de récompense immédiate. Et très très souvent, moi je le remarque bien, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vais sur les écrans, c'est pas forcément parce que j'ai une attente bien définie, mais c'est quand je suis dans un état de fatigue tel que je ne suis pas capable de me concentrer suffisamment pour me faire naître pour moi-même quelque chose d'intéressant, que j'ai besoin d'être rempli tout de suite. C'est une sorte de grignotage. C'est une sorte de grignotage, et c'est comme si les écrans avaient un peu le même effet que le sucre. C'est-à-dire, ça nous rend dépendants, et il nous faut notre dose à toute vitesse, mais c'est vraiment une dose rapide, ce qui me permet de répondre aussi sur la question de l'addiction. Parce que de notre point de vue, l'addiction en tant que telle, au sens fort, c'est quelque chose d'assez bien défini maintenant, qui implique un ensemble, il faut cocher un ensemble de cases pour qu'une situation rentre dans le domaine de l'addiction. Alors je ne vais pas forcément toutes les cocher, mais il n'est pas sûr, déjà il est difficile de voir quelles situations vraiment liées aux écrans rentrent là-dedans, il y en a certaines, ça c'est sûr. Est-ce que le rapport aux écrans, en général, relève de l'addiction au sens fort? Pas forcément. En revanche, il relève de ce qu'on pourrait appeler les processus addictogènes. Et les processus addictogènes, ils sont à l'œuvre bien au-delà des drogues, bien au-delà de tout ça. Ils sont à l'œuvre, par exemple, dans la malbouffe. Ils sont à l'œuvre dans tout ce qui fait qu'on a des comportements instinctifs, faciles, qui sont liés à des mauvaises habitudes qu'on nous donne, à un environnement qui fait qu'on a l'habitude d'y céder. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment une espèce de généralisation de ces comportements liés à la malbouffe. Et ça a quand même un effet assez pervers, et même très puissamment pervers, parce que ces comportements-là, ce sont des comportements qui biaisent totalement notre capacité à décider qui on est et qui on veut être sur le long terme. Ce sont des comportements qui fissurent notre autonomie, qui font qu'on est pris dans quelque chose de court terme, et dans quelque chose de court terme qui, en général, va venir interférer, alourdir, rendre plus difficile ce qu'on ferait à long terme. Mais tiens, c'est la même chose que quelqu'un qui voudrait faire du sport, qui voudrait faire plein de choses, et qui mange du sucre, qui mange des chips. Bon, il ne va pas forcément être content de l'avoir fait, et après, il ne va pas forcément être si libre que ça. Et les écrans, ça nous habitue à ça en permanence. Et pour moi, c'est toute cette vaste zone grise qui est, entre guillemets, plus perverse que les comportements addictogènes forts, parce qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Et ça nous alourdit, ça nous affaiblit, ça fait que petit à petit, on rentre dans un mode de vie dans lequel on n'est pas totalement maître de notre vie n'est pas totalement satisfaisante, mais cette insatisfaction, elle est souterraine, elle nous habite à bas bris, c'est un appauvrissement un peu trop imperceptible pour qu'on puisse vraiment se révolter contre lui, mais qui petit à petit nous empoisonne. Et c'est vraiment contre ça qu'on a voulu essayer de donner, je ne vais pas dire des antidotes, mais un ensemble de choses qui pourraient transformer la situation.
On reviendra tout à l'heure sur le rapport au temps, puisqu'effectivement, quand on parle de notre époque et des écrans, et vous disiez finalement, c'est la satisfaction tout de suite, un rapport au temps et à l'attente, comme vous disiez, qu'on a peut-être perdu avec les écrans. Mais je voudrais rester quand même encore un tout petit peu sur cette question de l'addiction. Mais en réalité, est-ce qu'on est addict? Vous venez de le dire, l'addiction aux écrans, ce n'est pas vérifié. Mais c'est finalement pas une addiction aux écrans. On est plutôt addict à ce que les écrans ou à ce qu'il, le contenu, c'est-à-dire que c'est un miroir, c'est aussi peut-être une recherche d'être rassuré, d'avoir peut-être des relations quand on n'est pas effectivement totalement bien dans sa famille ou chez soi. Vous écrivez encore une fois, pour vous lire encore, le besoin de me remplir pour me sentir vivante, et vous écrivez juste après, me remplir de sa savoir, comme je peux me remplir de cigarettes et d'alcool, d'amour et de sexe, de reconnaissance et de cœur sur les réseaux sociaux. Ce qu'on recherche très souvent sur les réseaux, c'est peut-être aussi tous ces cœurs, et c'est presque un miroir, et c'est quelque chose qui nous rassure et qui nous dit finalement « tu n'es pas si mal que ça ». Est-ce que ce n'est pas de ça dont on parle en réalité, Laura Pozzulli ?
Si, sûrement, mais je rebondis effectivement sur ce que disait aussi Florian. C'est vraiment, oui, se remplir, parce que ça fait appel quand même à notre circuit de récompense. Donc il y a vraiment quand même cette dopamine qui s'active et c'est ça quand même qu'on va chercher. C'est pour ça qu'on peut parler un peu de tout ce qui est addictogène, même si ça ne rentre pas pour l'instant. En tout cas, on n'a pas dans le manuel des troubles mentaux l'addiction aux écrans en tant que tel, parce que c'est aussi un champ d'étude. Mais oui, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que ressent mon personnage Lara. Elle compare à plein d'autres comportements, en fait, un peu addictifs, compulsifs, sans que ce soit forcément une addiction au sens propre du terme, parce qu'une addiction, ça fait perdre, en fait, le contrôle de sa vie, alors que là, c'est beaucoup plus, en fait, pernicieux, en fait.
À tel point qu'elle peut, mais alors on l'a toute fait, je crois, enfin, je vous dis ça, mais j'en sais rien, mais de remplir des paniers de fringues et d'être plus excitée
à remplir le panier. Ça fait aussi partie des comportements addictifs qui sont étudiés. Je lisais il y a deux semaines, il y avait un grand format très intéressant dans le New York Times du docteur Anna Lemke, je ne sais pas si vous connaissez, une américaine là, qui travaille sur tout ça. Elle utilise vraiment le terme de drogue digitale et elle inclut le shopping en ligne, justement, dans ce.
D'ailleurs, si je peux vraiment, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce que tu écris. Moi, d'ailleurs, alors pas forcément dans ce livre-là, mais dans l'autre, là, mes labyrinthes. Moi, quand je décris mes premières expériences avec les réseaux sociaux, c'est vrai que la première chose que ces réseaux ont fait pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, c'est de combler une faim immense et qui n'était pas forcément une faim négative. Il n'y avait pas que de l'addiction là-dedans. Il y avait le fait que, je pense, nos corps, nos cerveaux, en tant qu'humains, ont une aspiration à la connaissance, à l'information très forte que l'état du monde avant n'assouvissait pas nécessairement. Et donc, pour beaucoup de gens, ça a été vraiment un moment où on a pu, je ne vais pas dire se remplir, mais on a pu s'ouvrir comme ça à essayer de combler tout ce manque qu'on sentait qui était avant ce qui nous mobilisait. Et moi, d'autant plus avec les troubles autistiques, je sais très bien que la première phase des réseaux sociaux, ça a été une sorte de fin démesurée de connaissance du monde, de tous les pays en particulier. Et pour moi, il y a eu un basculement, parce que c'est cette manière que j'ai eu d'essayer de me remplir de tout via, alors ce n'était pas encore les réseaux sociaux, c'était les moteurs de recherche, cette manière que j'ai eu d'essayer de me remplir de tout, c'est comme si elle avait fait basculer mon équilibre, et de là, je suis passé ensuite au voyage, donc ça a été très émancipateur. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le numérique, pourquoi est-ce que ce numérique-là, sous la forme des réseaux sociaux ou même avant, a si bien marché, c'est parce que ça répondait quand même à un appétit extrêmement puissant. Ensuite, le problème, c'est que petit à petit, quand tous ces outils se sont mis à se développer, on a cherché à en faire de l'argent avec. Ceux qui les ont construits ont voulu faire de l'argent avec. Ils ont compris que ça attisait notre appétit et ils se sont arrangés pour le faire fonctionner de manière à ce qu'on ne maîtrise pas cet appétit et de manière à ce que ça soit les dimensions les plus compulsives et addictogènes de cet appétit qui, lui, est bon, qui était activé et renforcé. Et c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Mais cet appétit, je pense qu'il est quand même positif. Ça fait partie de l'émancipation. Ça répond à un désir réel de l'autre et du monde.
C'est finalement, je vous écoute là tous les deux, mais je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est finalement ce qu'on en fait. C'est l'usage qu'on fait de tout ça. Certains peuvent prendre le pouvoir grâce à certains réseaux. C'est le cas du cyberharcèlement dont elle a été la victime, votre narratrice, Lara, où finalement ce docteur avec qui elle a eu une aventure a usé des réseaux et de tout ça pour finalement presque la continuer à la harceler. C'est la question aussi de l'image qu'on a de soi, qu'on veut donner de soi, et c'est ça peut être émancipateur, mais ça peut être destructeur. C'est finalement où on met le curseur, et c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et la grande question, c'est finalement comment on nous aide aussi à utiliser tout ça, d'où la question aussi de la transmission. Lara est mère de famille, 3 enfants, elle se pose la question aussi de ce que feront ses enfants plus tard, l'usage qu'ils feront des réseaux, quand elle regarde les jeunes dans ce service d'addictologie, elle ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on leur apprend demain? Je vous pose la question à tous les deux. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui quand on a des enfants, quand il y a autant de réseaux, quand il y a autant de pouvoir grâce au réseau? Et même si ça peut être émancipateur, ça peut être aussi destructeur. Florian, Laura, Podjoli, tous les deux.
Je pense que ce qui est intéressant, mais dans ce que vient de dire vraiment Florian, c'est le fait, au départ, bien sûr, le numérique, c'est pas le grand mal, mais c'est qui dirige ça aujourd'hui. Et c'est vraiment la question, effectivement, des géants du numérique. Moi, j'ai essayé un peu dans mon roman, même si c'est... Mais il y a quand même un chapitre où je parle à la deuxième personne, et on suit un cerveau, en fait, chez un enfant, un adolescent, des adultes, et on voit ce que ça fait, en fait, et à quel point ça finit par nous aliéner, alors qu'au départ, effectivement, ça pouvait être émancipateur. Et ça, bah, en tant que parent, forcément, pour rebondir sur votre question, en tout cas, moi, je m'interroge sur ça parce que j'ai pas envie qu'ils aillent aujourd'hui, mais moi, ils sont pas encore adolescents, donc c'est un peu facile, mais qu'ils aillent ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux parce que je sais bien qui est là, en fait, derrière, et on va chercher à les maintenir le plus longtemps en ligne et qu'avec les algorithmes, on peut les enfermer vraiment dans des schémas de pensée très négatifs. Et c'est ça qui est angoissant, en fait, pas avoir cette maîtrise-là.
Et je suis complètement d'accord, et vous touchez une question qui est très importante, ce qu'on en fait, mais ce qu'on en fait, c'est aussi qu'est-ce que le réseau lui-même nous permet de faire de lui. Et de fait, vraiment, les modèles économiques qui sont derrière, ils ont presque tous pour objet principal de nous maintenir engagés, de nous faire interagir. Le réseau social, pourquoi on parle d'économie de l'attention ? Parce que le réseau social, il fait quelque chose que la publicité avant ne faisait pas. La publicité, elle attirait notre attention. Le réseau social, il détermine qui va pouvoir attirer notre attention. Il se greffe dessus, c'est un pipeline, notre attention c'est le puits de pétrole, et c'est qui détient le pipeline ensuite a accès à elle. Donc il contrôle la manière même dont notre attention va au monde. Mais ce qui fait qu'il nous prive vraiment très très fortement de l'autonomie même de la capacité de notre volonté à déterminer où l'attention va aller. Alors ensuite, par des manières qui sont vraiment liées à l'architecture, ce qu'on appelle les architectures de soi. Alors, vous avez plein d'exemples que tout le monde connaît, hein. Les menus défilants infinis, les pop-ups, les alertes, bon, ça qui active un certain nombre de mécanismes, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi est-ce qu'on faisait l'analogie avec les casinos tout à l'heure ? Parce qu'un casino, si vous êtes déjà allé vous promener dans un casino, et le mieux c'est d'aller à Las Vegas ou à Macao, parce que c'est là où ils sont les plus grands, c'est un bâtiment colossal où tout est fait à l'intérieur pour vous faire perdre vos repères, pour vous faire perdre la conscience du temps, pour vous mettre dans un état d'hébétude, pour vous rendre disponible à toutes les sollicitations. Et dans ces casinos, vous avez les machines à sous. Et alors les machines à sous, elles, c'est clairement du récompense, punition, avec quelque chose d'un peu aléatoire qui vous maintient, mais il n'y a pas que ça. Dans le casino, vous avez toutes sortes d'autres sollicitations. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais à Las Vegas, je m'étais dit « je ne jouerai pas ». En effet, je n'ai pas joué, mais j'ai passé 4 heures dans le casino, j'ai acheté des t-shirts totalement idiots de la ville de Las Vegas, j'ai acheté un tour en hélicoptère de 5 minutes à $300, parce que l'ensemble du dispositif, le casino, il est là pour vous faire oublier que vous êtes dedans et pour vous faire oublier ce que vous voulez. Le réseau social, il fonctionne de la même manière, il vous entoure, mais en se rendant invisible, il vous rend disponible. Juste un dernier mot, il y a juste une chose qui est plus vicieuse dans le réseau social que le casino, c'est que le casino, vous savez au moins que vous êtes rentré dedans, et vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour rencontrer vos amis, sauf si vous êtes un joueur invétéré, vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour faire vos courses. Est-ce que le réseau social, ses concepteurs ont fait en sorte qu'il englobe tout, donc vous êtes obligé de passer par lui, et à partir de là, ensuite, il vous prive de votre volonté. Et donc, vous n'êtes absolument plus libre de pouvoir en faire quoi que ce soit. Et la première chose, et enfin, je rends la parole, la première chose, c'est de trouver le moyen, dans la manière dont il fonctionne, dont il s'affiche, de rendre le pouvoir sur son fonctionnement même.
Et il y a deux autres grosses différences, excusez-moi, avec le casino, c'est que le casino, il faut y aller, il faut se déplacer, on n'a pas le casino dans la poche.
Oui, bien sûr.
Et deuxième chose, il y a des lois par rapport au casino, parce que si on est trop addict, les lois aujourd'hui interdisent certaines personnes d'y entrer,
totalement.
Ce qui n'existe pas encore avec les réseaux sociaux. Vous écrivez, alors vous ou l'un de vos collaborateurs, Florian Forestier, le monde numérique offre en effet des possibilités démultipliées de capter notre attention, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, de l'interrompre, de la recapter. La multiplication des stimuli suscite alors de l'effort pour résister aux distracteurs. Le rythme de captation systémique de l'attention ne laisse pas assez de temps pour la restaurer entre deux efforts cognitifs successifs. En gros, quand on est capté, on a du mal à résister, à repartir.
La manière dont on est capté fait qu'on est... C'est une multiplicité de petites sollicitations qui ruissellent sur nous. Donc, même si on n'est pas capté totalement, notre attention ou les multiples processus attentionnels en nous sont éveillés, sollicités, donc fatigués. Donc même quand on n'a pas l'impression d'être vraiment engagé sur le réseau social, même quand on a l'impression d'être juste là et de faire autre chose, ça draine de l'énergie, ça draine de l'énergie attentionnelle beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ça tire des fils qu'on n'imagine pas, et ces fils-là, c'est des fils qui emportent avec eux de l'énergie qu'on aurait pu utiliser pour autre chose. Et c'est aussi pour ça que c'est vicieux. C'est qu'on croit que c'est léger, on croit que c'est anodin, et en réalité, à chaque fois, on y laisse une part de notre force.
La plus grande, finalement, il y a le mot « le temps » que vous avez dit. Oui. Alors, le temps, c'est quand même un des grands sujets de la littérature, quand même, le rapport au temps. Et ça, c'est ce dont vous parlez aussi, Laura Poggioli, dans ce texte-là. Le rapport au temps, c'est notre société. C'est aussi la capacité ou pas de ralentir. Ça, vous en parlez dans votre dernier ouvrage, hein, ce rapport à la nature. C'est prendre le temps, c'est l'attente dont vous parliez. Donc, c'est se réapproprier tout ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des signaux qui nous disent ça va, on n'a pas non plus totalement perdu cette capacité d'attente et de ralentir, Florian Forestier? Est-ce que vous sentez encore quand même des réactions face à ce monde qui va trop vite?
Alors je ne sais pas si je peux parler pour les gens qui ont 15 ans. Moi, ce dont je me rends compte, déjà, même notre livre d'ailleurs, je pense qu'il est quand même très générationnel dans le sens où il a à l'horizon les réseaux sociaux qui ont été les nôtres, c'est-à-dire Facebook, même un peu Instagram, et pas forcément TikTok. Donc, on n'est pas forcément configuré de la même manière par rapport aux réseaux sociaux. Et en particulier, je pense qu'il y a une chose qui a un petit peu changé, c'est que pour notre génération encore, le réseau social, ça reste de la distraction essentiellement, ou de l'échange. C'est pas identitaire et c'est pas de la valeur. Et ce qui a énormément changé, je crois, c'est que pour les générations qui arrivent, le réseau social a construit beaucoup plus que ça. Le réseau social, il a construit un système de valeurs dans lequel la visibilité est quelque chose d'important. Mais pour nous, maintenant, je pense que le fait même que ça soit de la distraction fait qu'au bout d'un moment, la fatigue, l'ennui revient et on a envie de surexister à ça. Donc oui, il y a plein d'exemples. Le fait que pendant la crise Covid, on n'était pas si satisfait que ça. Alors moi, je me suis enfui en Suisse qui n'a pas confiné. Donc j'étais pas devant les réseaux sociaux, j'étais dans la nature. Et j'étais très content de l'être et c'est comme ça que je l'ai redécouvert. Mais on se rend bien compte quand on est réduit à ça que ça ne suffit pas à faire une vie. Et qu'il y a eu depuis d'ailleurs la crise sanitaire, depuis le Covid, il y a eu quand même des espèces de grandes tendances à essayer de retourner vers la nature, à essayer de retourner vers la montagne. C'est très amusant d'ailleurs quand vous allez en montagne, quand vous parlez aux guides de montagne. Juste après les confinements, vous avez eu un afflux de gens qui n'en avaient jamais fait et qui se sont mis à vouloir aller n'importe où, n'importe comment, de manière précipitée, comme s'il fallait presque de manière urgente essayer de vivre et de faire des choses difficiles, physiquement engagées, comme s'il fallait retrouver un contact très âpre avec la vie. Donc je pense qu'il y a des choses dans notre corps qui ne sont pas satisfaites par les réseaux sociaux, par les écrans, qui font qu'au bout d'un moment, on se révolte. Mais après, je ne pourrais pas répondre à ça dans la perspective de quelqu'un pour qui ce n'est pas que du divertissement, mais c'est de l'identité.
C'est différent. Je vais revenir sur le côté générationnel, Laura Poggioli, mais juste pour revenir sur le côté collectif, vous parliez du Covid. Il y a un point très important dans votre ouvrage, Florian Forestier, c'est cette fameuse expérience collective qui peut nous manquer quand on est et sur le réseau social et en cas de confinement. Cette expérience collective, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le fonctionnement de l'attention elle-même. C'est que notre attention, c'est un ensemble de processus qui sélectionnent, qui maintiennent et qui contrôlent des objets. Mais une grande partie de ces processus, ils sont activés en miroir avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de notre attention qui va se partager avec les autres. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié par les psychologues. Ça fait partie du développement de l'enfant de pouvoir partager de l'attention. Alors, l'exemple qui est le plus donné, c'est le petit enfant qui va regarder en même temps que son père et sa mère un objet, qui va comprendre que le père ou la mère le regarde, qui va s'amuser. Donc, la relation, elle se construit via le partage de l'attention. Le partage de l'attention, ça va très au-delà du regard. C'est le partage par les sons, c'est le partage par les odeurs, c'est le partage par les mots. C'est pas forcément du partage en direct. Notre corps, il n'est pas simplement là en présentiel moteur. Notre corps, il a une mémoire. À travers cette mémoire, les autres n'arrêtent pas d'y faire écho. Mais en tout cas, le partage de l'attention structure notre expérience et la rend riche et la rend partagée. L'autre est enveloppé en nous, nous sommes inscrits en l'autre. À partir du moment où les réseaux sociaux se mettent à perturber les processus attentionnels, ça perturbe la relation, ça perturbe la capacité même d'échanger avec l'autre, parce que la manière dont on le rencontre devient plus pauvre, plus faible, plus lâche. En gros, un des effets, c'est qu'on ne va plus pouvoir parler que de choses rudimentaires, on n'a plus d'autres capacités d'échange que « je suis d'accord avec toi » ou « ah non, t'es un connard, t'es mon ennemi ». Ça s'appauvrit de cette manière-là. Ensuite, quand même un dernier petit point, c'est que les réseaux sociaux en soi, pas tels qu'ils fonctionnent maintenant, mais quand on regarde les techniques qui sont derrière, ils ne vont pas inéluctablement compromettre ni l'attention ni la capacité à la partager. Ils peuvent aussi offrir de très bonnes manières de la partager plus finement, justement plus fine, au-delà de ce que notre corps immédiat permet. Alors, moi, j'ai donné l'expérience de l'autisme parce que c'est extrême. Ce sont des choses qui ont été très manifestes pour toutes les communautés de ce qu'on appelle la neurodiversité. C'est la capacité, justement, à échanger via les mots et dans le temps. Il y a une autre chose que les outils numériques permettent aussi, c'est de rendre visible beaucoup plus nettement la pensée d'autrui. Et là, ce n'est pas la peine de chercher des choses compliquées. Rien qu'un outil comme un Google Doc, et je dis Google, donc ce n'est pas forcément un acteur philanthrope. Rien qu'un Google Doc, quand vous écrivez et que l'autre écrit, ben vous voyez où il s'arrête. Vous voyez, ah ben là, il est en train de bugger, ou là, elle est en train de bugger. Ah ben là, elle réécrit, ah ben là, elle écrit plus lentement, là, elle écrit plus vite. Et la plupart du temps, en plus, l'autre a un nom marrant, un facochère anonyme. Mais rien qu'un Google Doc, ça donne une capacité de projection de la pensée de l'autre intéressante. Et vous avez des réseaux, vous avez des dispositifs qui sont beaucoup plus riches que ça, OpenStreetMap par exemple, qui permettent vraiment de partager et l'attention et la réflexion de manière beaucoup plus fine. Et sans doute, une des choses à faire, ça serait de faire en sorte que ça se développe plus, que ça soit beaucoup plus partagé, que ça prenne, je ne sais pas si ça prendra le pas par rapport aux grands réseaux, mais en tout cas, que ça soit une alternative beaucoup plus visible. On peut construire de l'attention conjointe et partagée avec le numérique, il n'est pas inéluctable qu'il la détruise.
Je voudrais qu'on revienne sur la question de génération, générationnelle, la question du temps et la question de l'humain. Avec vous, Laura Poggioli, c'est Florian Forestier qui a dit finalement c'est aussi générationnel. Et la question peut-être ne se poserait pas pour des jeunes de 15 ans qui ont grandi avec le téléphone. C'est la grande question aussi de votre ouvrage, où cette jeune femme se trouve entre les deux. Elle va toucher les limites de l'usage du téléphone, on ne va pas en dire plus, mais c'est quand même le regard d'une femme de 40 ans et qui est entre les deux et qui regarde finalement, ça s'appelle époque, mais ça pourrait être, elle est entre deux, ça pourrait peut-être entre deux époques.
Oui, ça vous va le avec entre un deux S au départ, c'était époque et
grâce. Voilà, votre éditeur vous a
enlevé un S. Ça a évolué. Mais oui, par rapport... Quand vraiment Florian parlait là par rapport aux différentes générations, moi je quand j'étais dans cette unité là en fait, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est pas uniquement ils ont des problèmes d'addiction, mais c'est tous les troubles qui sont associés, et ça je l'ai vraiment mis dans mes personnages. Dans le roman, Maria, Agathe, Stéphanie, enfin, il y a vraiment beaucoup de troubles, notamment beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de troubles dépressifs, beaucoup d'automutilation. Ça, c'était vraiment bouleversant, et des conduites suicidaires, un sentiment de solitude, etc. Moi, j'ai vraiment perçu ça pendant les semaines que j'ai passées avec ces jeunes, et c'est ça qui était le plus touchant. Et là, je lisais il y a peu de temps, en janvier, un livre qui est sorti aux éditions Les Arènes du psy, alors lui c'est un psy américain, Jonathan Haidt, qui s'appelle Génération Anxieuse, donc ça a été un best-seller aux États-Unis, et lui il se base sur plein d'études en fait, et il y a des graphiques qui sont vraiment très forts, et même moi après avoir travaillé, après avoir passé du temps dans cet hôpital, après avoir écrit ce roman, on voit en fait une augmentation incontestable en fait et très impressionnante des troubles anxieux, des troubles dépressifs, de l'automutilation et des conduites suicidaires depuis 2010-2015. Et en fait, la seule chose qui peut expliquer ça, donc chez les plus jeunes, c'est en 2010-2015 qu'on a le smartphone avec la caméra, donc intégré, qui permet de prendre des photographies, etc. Et puis les réseaux sociaux, mais avec les fonctionnalités de validation, etc., telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc c'est vraiment, et ce que disait Florian tout à l'heure, c'était très fort, je trouve que voilà, on a pu se construire en fait avec d'autres choses, un rapport à la nature, à l'ennui, à la lecture. On peut se reposer en fait aujourd'hui dessus, si on sent qu'on vacille un peu avec tout cet environnement. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, par rapport à mes enfants, hein, si on revient revient, et ce qui inquiète Lara en fait le plus dans le roman, c'est ça en fait. Là, est-ce qu'il va manquer des choses en fait à la construction des plus jeunes, et comment on peut accepter nous aussi d'avoir laissé tout ça s'emballer aussi tellement vite, sans régulation, et voilà, et ça crée donc des troubles réels.
Si je peux,
allez-y, Florian.
Si je peux dire un tout petit mot, moi, il y a une des choses qui m'effraie le plus, surtout avec les nouveaux réseaux d'ailleurs, c'est pas forcément que les réseaux rendraient les gens bêtes ou incultes ou même vides. Je pense que la vieille grille qu'on peut avoir, qui vient en philosophie d'une analyse en termes de culture de masse et tout, elle n'est pas tout à fait pertinente. Moi, la chose qui m'effraie, c'est que les réseaux, dans la manière dont ils cultivent en permanence la mise en jeu de soi, la monstration de soi, ils rendent vicieusement intelligents. Mais ils forment pas du tout des gens bêtes et des gens incultes. Ils forment des gens en réalité très cultivés à leur manière, mais cultivés dans la capacité tout le temps de se mettre en scène et en avant. Parce que le réseau social, surtout là, le nouveau réseau social de nouvelle mode, c'est une scène permanente. Donc vous êtes en scène permanente, dans une espèce de logique qui est mi-professionnelle, mi-entretien d'embauche, mi-théâtrale, et vous ne vivez plus que comme ça. Et donc vous êtes construit dans cette espèce de capacité stratégique à vous mettre en avant. Ça, je trouve ça très dangereux, parce que finalement, vous avez affaire à des gens qui sont aliénés. Bon, cela dit, je suis aliéné aussi à ma façon. Mais vous avez affaire à une aliénation qui n'est pas une aliénation du vide. Vous avez affaire à une aliénation qui est très très sophistiquée. Et les youtubeurs sont la plupart du temps des gens qui sont très doués dans ce qu'ils font. À partir de là, c'est pas si facile que ça de déjouer ce piège-là, parce que vous avez des gens, certes, le contre-coup, la contrepartie, c'est qu'ils sont anxieux, c'est qu'ils sont malheureux, mais ils sont très bons dans la mise en scène de soi. Et c'est comme si le monde rentrait tout entier dans un roman de Bret Easton Ellis. Et ça m'effraie plus, ça.
Oui, c'est ça, parce que à quoi ça sert d'être très bon si on est très malheureux ou très anxieux?
Mais surtout très bon... de pas de manière profonde.
Oui, c'est ça. Et à quoi ça sert? Je vais juste vous lire un tout petit extrait pour finir. Après, je donnerai la parole au public s'il y a des questions ou des remarques. Laura Poggioli, c'est un peu toute la fin, mais je trouve que ça résume bien ce qu'on s'est dit. Vous écrivez, j'ai eu envie, Lara a dit, j'ai eu envie de passer du temps dans cette unité, car j'ai pensé que les addictions des jeunes d'aujourd'hui me donneraient le pouls de notre époque. Approcher de la quarantaine de ce qui m'apparaissait comme la moitié de ma vie me donnait le vertige. Je voulais percer le monde dans lequel mes enfants grandissaient, dans lequel moi je vieillirais, qui me semblerait sûrement de plus en plus inadapté. Est-ce la marche éternelle de l'existence, rien de plus ni de moins que ce que tant d'autres mères ont dû ressentir avant moi, ou bien ce sentiment de perte d'équilibre est-il décuplé par une accélération incontrôlable des techniques de communication, des ondes et des algorithmes? À l'hôpital, je cherchais des réponses, j'y ai trouvé un condensé de souffrance et d'anxiété, mais aussi de l'espoir et une profonde humanité, des femmes et des hommes agités de questions, juste des humains en somme. Vous mettez de l'espoir encore, parce que justement, quand il y a de la souffrance, il y a encore de l'humain. Est-ce que je lis bien? Est-ce que je le résume bien?
Très bien. Là, ce que je mets à la fin, là, dans ces mots, dans les mots de mon héroïne, c'est aussi... Parce que c'était très beau ce que j'ai vu dans cette unité, en fait, qui est un endroit assez rare en France. En tout cas, quand j'y étais, il n'y avait pas d'autres unités d'addictologie comme ça, traitant des écrans en pédopsychiatrie en France. Et la responsable de cette unité, c'est vraiment une femme exceptionnelle. J'ai mis beaucoup d'elle dans le personnage de Pascal. Eux, ils s'occupent d'addiction depuis des années. Il y a de plus en plus donc d'addiction aux écrans, et ils tentent de trouver des solutions, des réponses, d'aider. Et oui, je voulais quand même finir là-dessus, parce que je pense que c'est récent, et on en parle de plus en plus. Et il va peut-être y avoir une réaction aussi collective, en fait, et des possibilités de régulation. Et ça, je pense, Florian, dans le livre collectif, là, vous tentez d'apporter
des conseils et des réponses par rapport à ça.
Moi, j'ai pas fait ça dans le roman, parce que c'est un roman et c'est pas...
Mais je pense que vous avez raison. Le fait qu'on soit... Enfin, la souffrance explicite et ressentie, ça veut dire que notre humanité résiste à ça. Donc c'est une preuve d'espoir, c'est une forme d'espoir, à mon avis, plus forte même que l'engagement des États. Ah, l'humanité n'est pas absorbée totalement.
Bon, alors tout n'est pas totalement perdu. Est-ce qu'il y a des remarques et ou des questions? On a quelques toutes petites minutes encore devant nous. Monsieur.
Toute petite question, est-ce que vous pensez que l'écriture est une antidote crédible et efficace? Est-ce que vous l'avez expérimenté vous-même? Est-ce que vous pensez que c'est un espoir?
Moi, je peux dire un mot, en tout cas, c'est que l'écriture littéraire, c'est un très bon signe pour moi de mon degré d'aliénation par le réseau. Quand j'arrive à écrire littérairement de manière, pour moi, satisfaisante, ça veut dire que j'ai mon attention et que je suis individué correctement. Et quand la pauvreté du style est un très bon indice de ma pauvreté intérieure. Donc, je pense que l'écriture est un... je pense que l'écriture est une forme, en tout cas, oui, vraiment.
Je suis d'accord, mais en fait, moi, quand j'écrivais à l'époque, j'avais désinstallé toutes les applications de réseaux sociaux de mon téléphone. Je ne pouvais pas, en fait, être dans ce geste d'écrire avec tout ça. Alors que pour mon premier roman, j'étais moins... Comme je le disais en début de rencontre, j'utilisais très peu les réseaux. Et là, je l'ai ressenti très fort et j'étais obligée de... Et je le ferai pour le prochain. Et là, je sens que ça va à peu près.
Est-ce qu'il y a... Monsieur ?
Quel est l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur ce que vous avez dit là ? Est-ce qu'il y a un impact ?
C'est à moi ou à... Alors, bon, moi je peux. Alors, je vais pas répondre de manière. Parce que pour le coup, moi j'ai une forme d'addiction positive et narcissique à ChatGPT et aux IA génératives. Mais je pense que dans l'absolu, de manière individuelle, sont des outils qui peuvent. qui offrent beaucoup plus de prise directe. Parce que. ChatGPT, mais pas que, c'est un miroir de l'intelligence et du discernement que vous mettez quand vous interagissez avec lui. Avec un vice quand même, c'est que c'est un miroir qui vous répond quand même toujours que vous êtes le plus beau. Mais je pense qu'il y a, que l'intelligence artificielle, ça aussi, si on sait se le réapproprier, ça offre des possibilités émancipatrices, mais que maintenant, toute la couche invisible d'intelligence artificielle qui va s'ajouter partout, elle est extrêmement dangereuse parce que ça veut dire qu'au sein même des réseaux sociaux, vous avez toute une couche spectrale et fantôme qui va devenir de plus en plus active, qui va faire que le réseau va vous envelopper comme une bulle de plus en plus douce et de plus en plus imperceptible. Et ça, c'est dangereux. C'est la capacité de l'intelligence artificielle greffée à autre chose de rendre l'addiction plus fantomatique, plus douce et de donner à l'addiction la forme et de la volonté, de l'autonomie, ça rend l'intelligence artificielle dangereuse. Mais en même temps, en tant que telle, dans ce qu'elle fait, et encore, je ne parle que des IA génératives, il y a des choses positives. Et dans les développements même beaucoup plus techniques de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a vraiment... je vais dire ça autrement. Les possibilités techniques de l'intelligence artificielle peuvent aller dans tous les sens. Le problème sont les forces derrière qui vont les orienter.
C'est la même chose qu'on a dit par rapport au réseau, en fait. En soi, ça peut être formidable, ça peut amener plein d'évolutions positives, mais il n'y a pas de régulation.
On a un point.
Une question pour enchaîner sur ça, peut-être, puisque vous avez été présenté, M. Forestier, comme un spécialiste aussi de la régulation des réseaux. Alors, sérieusement, avec Elon Musk à la Maison Blanche, vous pensez que c'est encore possible ?
Alors, je suis spécialiste de la régulation, c'est-à-dire que je me suis engagé avec d'autres dans des processus essayant d'en construire la régulation. Écoutez, je suis beaucoup moins optimiste qu'avant. Je pense quand même, mais bon, je vais dire une horrible banalité, mais que si l'Europe veut essayer de faire exister des technologies qui, par ailleurs, soient économiquement viables et qui fassent autre chose que ce que font les technologies existantes, il faut qu'elles protègent, donc il faut qu'il y ait un ensemble, qu'il y ait une régulation, qu'il y ait de l'investissement, qu'il y ait de la recherche, et qu'on crée vraiment un écosystème rendant viable ce qu'on a envie de faire exister. Ça, dans l'absolu, je pense que ce n'est pas impossible, et... Pour le coup, s'il y a une des rares choses que l'Union européenne a fait de bien, c'est d'essayer d'aller dans cette direction. Ensuite, maintenant, je pense que simplement, si on veut aller clairement dans cette direction, il faut accepter le rapport de force, et pas qu'avec les grands groupes, mais aussi avec les États-Unis, avec les grands pays. Il faut accepter de se dire, à un moment donné, on va arrêter, eux ne vont pas être gentils, eux vont nous dire, vous faites ce qu'on dit, sinon on vous écrase. Il faut qu'on assume et qu'on se dise nous-mêmes... qu'on soit prêt à retirer l'Europe entière de certains réseaux s'il le faut. Je pense qu'il faut qu'on soit prêt à rompre. Et j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais je pense qu'il faut qu'on soit prêt vraiment à rompre et à se dire, mais si le rapport de force nous est si défavorable sur certains points, et si y a une espèce de mixte aux États-Unis ou en Chine entre les grands oligarques et le pouvoir, dans ce cas, La seule chose qu'on a à faire clairement, c'est de relever le gant et de dire, bon, mais dans ce cas, on sort, tant pis. On assume les conséquences, on prend nos pertes, on sort.
Ça sera la dernière question, madame.
La pensée, la destruction de la pensée, c'est effrayant, enfin. Dès les dernières années, et il y a autre chose que je remarque, hein. Les artistes, ils ne sont pas compatibles. On ne voit pas des pièces de théâtre, on ne voit pas des gens qui disent « Merde, alors, qu'est-ce qui se passe ici, là ?» Où on va comme ça. Et les médias, ils sont nuls. Les médias, ils sont nuls complètement. Il rajoute.
Bon, ben, on va rester sur ça. Merci beaucoup de votre remarque, madame. Merci beaucoup. Époque, deuxième roman de Laura Poggioli, avec les deux pieds dans le réel et dans les réseaux sociaux. Deuxième roman après Trois sœurs, toujours fidèle à votre maison d'édition, l'Iconoclaste. Et puis cet ouvrage, cet essai collectif, Florian Forestier, pour une nouvelle culture de l'attention, aux éditions Odile Jacob, où effectivement vous donnez quelques clés pour sortir de ce qui nous prend notre attention. Je peux peut-être citer, puisque vous l'avez cité en cours de discussion, Mila Labyrinthe, vivre avec la différence, où vous questionnez un autisme, enfin en gros l'autisme qui peut nous couper du monde, et votre dernier roman, Un si beau bleu, rapport à la montagne, au temps qu'on peut prendre, aux éditions Bellefond. Les ouvrages sont ici. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous.